le président iranien a ordonné une enquête immédiate sur le nouvel attentat terroriste perpétré dimanche au sanctuaire de Shah Cheragh à Shiraz. Des gangs terroristes organisés par des colons israéliens attaquent des écoles palestiniennes. Et l'ancien président nigérien et ses proches seront poursuivis pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays, ont annoncé les militaires au pouvoir au Niger. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le président de la République islamique a ordonné une enquête immédiate sur le nouvel attentat terroriste perpétré ce dimanche 13 août au sanctuaire de Shah Cheragh à Shiraz, dans la province de Fars. Le président Ebrahim Raisi a ordonné au ministre de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, et au gouverneur de la province de Fars, Mohammad Hadi Imaniyeh, d'identifier et de punir rapidement les auteurs de l'attaque terroriste à Shah Cheragh. Lors d'appels téléphoniques séparés, Raisi, qui est également président du Conseil suprême de la sécurité nationale, a exhorté les deux responsables à utiliser pleinement les ressources disponibles pour soigner les blessés. Le président iranien a ordonné à Vahidi d'enquêter avec diligence et rapidité sur les dimensions sécuritaires de l'incident et de rendre compte du résultat. Tous ceux qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans cet attentat terroriste doivent être identifiés et traduits en justice. Le président a également présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Dimanche 13 août, au soir, une nouvelle attaque terroriste au sanctuaire de Shah Cheragh, dans la ville de Shiraz, dans le sud de l'Iran, a fait un mort et 8 d'autres blessés, dont 3 se trouvent dans un état critique. Les médias d'État ont rapporté que 2 terroristes sont impliqués dans la fusillade. L'un des agresseurs a été interpellé, le deuxième serait en fuite. Le groupe terroriste Daesh a revendiqué l'attaque meurtrière. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a fermement condamné dans un communiqué publié le 13 août les dernières attaques menées par des colons israéliens contre 2 écoles palestiniennes en Cisjordanie occupée, qu'il a considérées comme des actes de terrorisme. 2 écoles bédouines palestiniennes de Ras Al-Tin et Al-Taradi, toutes deux situées à l'est de la ville occupée de Ramallah en Cisjordanie, ont été attaquées par des groupes de colons israéliens. Ce terrorisme contre les écoles palestiniennes s'inscrit dans le cadre de ce qui est devenu un comportement des colons et de leurs gangs terroristes organisés, a déclaré le ministère dans son communiqué. De tels actes de terrorisme contre les écoles palestiniennes et leurs élèves sont le résultat des positions et des déclarations extrémistes des ministres israéliens d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui soutiennent les colons et leurs éléments terroristes. Le ministère a déclaré que les attaques de dimanche contre 2 écoles palestiniennes, dont l'une figure déjà sur la liste démolition du régime d'occupation, ont été menées sous la protection et le soutien direct des forces israéliennes. Au moins 13 prisonniers palestiniens détenus dans la prison israélienne ont entamé une grève de la faim illimitée en signe de protestation contre leur détention administrative et les mesures répressives du régime. La Société des prisonniers palestiniens, PPS, a annoncé samedi dans un communiqué que 6 détenus de la prison Rimon avaient rejoint les grévistes la fin jeudi dernier. Des centaines de prisonniers palestiniens sont actuellement détenus en vertu de la politique de détention administrative. La détention administrative en Israël est une sorte d'emprisonnement sans procès ni inculpation. Le régime israélien maintient les détenus sans inculpation jusqu'à 6 mois. Une période qui peut être prolongée indéfiniment. Des milliers de Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes. Les organisations de défense des droits de l'homme affirment qu'Israël viole tous les droits et libertés accordés aux prisonniers par la Convention de Genève. La détention administrative viole le droit à une procédure régulière puisque les preuves sont dissimulées aux prisonniers alors qu'ils sont détenus pendant de longues périodes sans être inculpés, jugés ou condamnés. Ils ont continuellement recours à des grèves de la faim illimitées. Les autorités pénitentiaires israéliennes maintiennent les prisonniers palestiniens dans des conditions déplorables, sans respect des normes d'hygiène appropriées. Les détenus palestiniens ont également été soumis à la torture, au harcèlement et à la répression systématique. Le ministre des Droits de l'Homme du gouvernement de Sanaa affirme qu'au moins 8000 enfants yéménites ont été tués à la suite de l'attaque militaire menée par l'Arabie saoudite contre ce pays appauvri et en crise. Le ministre des Droits de l'Homme du gouvernement du Salut national du Yémen a déclaré que l'offensive militaire en cours menée par l'Arabie saoudite avait laissé un lourd tribut pour la nation yéménite, tuant au moins 8 000 de ses enfants. Ali al-Daylami a en effet annoncé dimanche dans un communiqué que ses victimes avaient perdu la vie lors des frappes des avions de combat de la coalition saoudienne contre des quartiers résidentiels à travers tout le Yémen. Il a dénoncé de nouveau la frappe aérienne du 19 août 2018 contre le marché animé de Zahyan dans la province de Sada qui a causé la mort d'au moins 51 enfants et laissé dans un état grave près de 76 autres. Il n'a pas manqué de dire à cette occasion que l'incident constituait un flagrant crime de guerre. Les enfants du Yémen sont les victimes de l'agression continue menée par l'Arabie saoudite de manière directe et indirecte en raison des mines, des bombes à fragmentation, des restes explosifs de la guerre ou du blocus restrictif imposé au pays. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, dans une interview dimanche, a annoncé la participation de plus de 6 000 soldats ukrainiens aux sessions de formation militaire que la France a organisées cette année afin de soutenir Kiev dans la guerre avec la Russie. Le ministre français de la Défense a affirmé dans une interview qu'une fois la formation terminée, l'objectif qu'il s'était fixé quant au nombre de soldats à former pour 2023 sera donc atteint. La contre-offensive de l'Ukraine nécessite une nouvelle génération de soldats qui doivent être entraînés, a déclaré Lecornu. Pour nos propres formations militaires, pour les soldats ukrainiens en 2023, nous nous sommes fixés comme objectif de former 6 000 soldats ukrainiens dans deux pays, la France et la Pologne. En août, nous avons atteint cet objectif. Le ministre français avait annoncé en juillet que 5 200 soldats ukrainiens avaient suivi des cours de formation militaire et que parmi eux, 1 600 avaient été formés en Pologne. À cette époque, il avait indiqué aussi que d'ici la fin de l'année, 7 000 soldats ukrainiens participeront aux sessions de formation militaire. La France est fixée pour objectif de mobiliser un bataillon de 600 soldats ukrainiens toutes les 5 semaines, a souligné Lecornu. La France s'engage à continuer à fournir un soutien militaire à l'Ukraine, a-t-il précisé. L'ancien président nigérien et ses proches seront poursuivis pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays, ont annoncé les militaires au pouvoir. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger, a déclaré le colonel-major Amadou Abdrahman dans un communiqué lu à la télévision nationale. Le gouvernement appuie ces accusations sur des échanges de M. Bazoum avec des nationaux, des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. À propos du président déchu, la junte a appelé à s'interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu'il dispose encore de tous les moyens de communication. En outre, les militaires ont dénoncé les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, prises lors d'un sommet de l'organisation le 30 juillet, au cours duquel avait aussi été fixé un ultimatum de 7 jours pour rétablir l'ordre constitutionnel, sous peine d'un recours à la force qui n'a pas été appliqué. Les États ouest-africains ont annoncé, entre autres, la suspension des transactions financières et commerciales avec le Niger, dépendant économiquement et énergétiquement de pays étrangers. Ces sanctions vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, de denrées alimentaires et de fournitures en courant électrique, ont déploré les militaires dans leur communiqué. Tout récemment, le chef religieux Abdullah Balalaou a affirmé que la junte militaire s'est déclarée ouverte au dialogue avec la CEDEAO. C'est ce qui ressort des déclarations faites à la presse dimanche 13 août par le chef du groupe pour la lutte contre les hérésies et l'établissement de la Sunna, Abdullah Balalaou, après sa rencontre avec le chef de la junte militaire, Abdourahman Tiani. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. We'll be right back. comment les Américains, libérés dans le cadre d'un accord d'échange, se sont livrés à des activités d'espionnage en Iran. Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié jeudi un communiqué confirmant les informations faisant état d'un accord d'échange de prisonniers entre Téhéran et Washington qui comprend le dégel des fonds iraniens à l'étranger. 5 prisonniers iraniens et américains seront échangés dans le cadre de l'accord. L'échange, cependant, n'aura lieu qu'une fois l'argent déposé sur des comptes iraniens. Les 5 Iraniens qui seraient libérés dans le cadre de l'accord d'échange ont été emprisonnés pour avoir tenté de contourner les sanctions américaines, selon les affirmations de Washington. Tandis que 5 Américains en Iran ont été arrêtés pour espionnage. Parmi les 3 prisonniers américains qui seront libérés dans le cadre de l'accord d'échange figurent Emad Shahri, Morad Tahbaz et Siamak Namazi. Les 2 autres n'ont pas été publiquement identifiés. Les affaires concernant ces espions américains ont fait l'objet d'une politisation par le gouvernement américain dont le récit officiel a été suivi par tous les médias occidentaux, sans une seule exception. Selon des observateurs, la base juridique des poursuites intentées contre eux par la justice iranienne a été ignorée. Et les mêmes histoires clichées sur les arrestations sans fondement, les procès spectacles et les conditions de détention difficiles ont été répétées par les responsables américains et les médias mainstream. Selon le chercheur juridique Alireza Saderian, les Occidentaux emprisonnés en Iran pour espionnage sont souvent décrits comme des otages politiques, des hommes d'affaires, des écologistes, des humanitaires, des militants et des combattants des droits de l'homme pour générer de la sympathie pour eux. Pour influencer l'opinion publique en Occident, les médias américains publieraient des déclarations émouvantes de la famille et des avocats, les décrivant comme des innocents qui ont été mal encadrés par les autorités iraniennes. Les experts occidentaux et les soi-disant groupes de défense des droits omettent de mentionner les Iraniens qui croupissent dans les prisons américaines, arguant que les Américains sont échangés contre une rançon, qui est l'argent iranien illégalement gelé. Les affirmations selon lesquelles l'Iran aurait arrêté au hasard des citoyens américains pour des avantages financiers et autres sont tout simplement fausses et empiriquement non prouvées, comme en témoignent les cas de détention temporaire de 10 marins américains, 3 alpinistes et de nombreux autres exemples. D'un autre côté, les Iraniens libérés aux États-Unis n'ont pas été arrêtés pour espionnage, mais pour avoir tenté de contourner les sanctions américaines, c'est-à-dire le commerce pour un bénéfice mutuel.